très belle année sur Europe 1. Il est 22h. Tout de suite le journal avec Marguerite Lefèvre. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Il avait pris la défense d'un couple agressé en pleine rue à Lyon. Le jeune marin, toujours en convalescence 2 ans après les faits, vient de recevoir la Légion d'honneur. Vous entendrez l'émotion de sa maman dès le début de ce journal. Séquence politique importante hier soir, Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main lors de ses vœux. Une intervention qui n'a pas franchement convaincu les Français, c'est le résultat d'un sondage OpinionWay. L'actualité ce soir nous emmène également au Brésil, dont le nouveau président a été investi en fin de journée. L'ancien militaire d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a pris ses fonctions. Avec lui, c'est un virage radical que devrait opérer le pays dans les mois qui viennent. Dans la Drôme, 2 surveillants pénitentiaires ont été agressés par un détenu à Valence. L'un d'entre eux a été brûlé, le second blessé, semble-t-il, avec une lame de rasoir. Enfin en foot, le mercato d'hiver est lancé. Jean-François Pérez nous fera un point complet sur les potentiels recrues des clubs français. La météo, de mieux en mieux du côté du ciel, nous dira Valérie Darmon. Et puis la France bouge, retour ce soir sur la relance de Mako Moulage, cette entreprise de jeux pour enfants. Une renaissance que l'on doit à Agnès Bechet, elle était l'invitée de Raphaël Duchemin.
Europe 1.
Son geste avait ému bien au-delà de Lyon. Marin Sauvageon, un jeune homme de 22 ans, poursuit aujourd'hui sa convalescence. Il porte aujourd'hui de nombreuses séquelles, stigmates d'un acte de courage auquel il s'est livré il y a 2 ans. Le jeune homme, témoin d'une agression en pleine rue à Lyon, n'a pas hésité à s'interposer. Grièvement blessé, il a été plongé dans le coma pendant 11 jours. Aujourd'hui, Marin vient d'être récompensé. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Une fierté pour sa maman Audrey.
C'est un cadeau incroyable qu'on a découvert ce matin avec une joie et une fierté non dissimulées. Je pense que c'est un message fort envoyé aux gens et aux jeunes de ce pays. Il est important qu'ils se mobilisent, qu'ils agissent. Je ne leur souhaite pas de finir dans le même état que Marin, mais que les gens prennent conscience qu'ils font partie de cette société et qu'ils doivent agir dans cette société. Parce que si tout le monde agissait comme ça, on n'aurait plus peur des agressions dans la rue.
Audrey Sauvageon, la maman de Marin, qui était l'invitée de Raphaël Duchemin à la mi-journée. Marin qui fait donc partie de la promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier, aux côtés de personnalités comme l'écrivain Michel Houellebecq ou encore les joueurs de l'équipe de France de foot, championne du monde l'été dernier. C'était un rendez-vous pour reprendre la main. Pas sûr que le résultat soit tout à fait au rendez-vous. Emmanuel Macron présentait hier soir ses vœux aux Français. Un quart d'heure de discours dans lequel le président a réaffirmé ses choix. Aujourd'hui, 60% des Français estiment que cette intervention n'était pas convaincante. C'est le résultat d'un sondage OpinionWay pour LCI. Écoutez Bruno Jambard, le directeur général adjoint d'OpinionWay.
C'est sans surprise hein, d'un certain point de vue, puisque on sait que le chef de l'État est pris dans une période d'impopularité assez forte aujourd'hui, depuis l'été dernier, et donc il était assez peu probable qu'une intervention telle que celle des vœux puisse rétablir la situation et nous permettre de convaincre une large majorité des téléspectateurs. On note cependant que malgré tout, il a réussi à garder le soutien de sa base électorale. Et ce n'est pas négligeable en ce moment dans les difficultés qu'il rencontre.
Bruno Jambard, le directeur général adjoint d'OpinionWay, il répondait à Aurélie Herbemont. D'autres vœux font parler d'eux, ce sont les vœux de Jean-Luc Mélenchon. Le patron de la France Insoumise a publié un texte sur Facebook hier, un long message au cours duquel il revient sur le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qu'il soutient. Adrien Beck, Jean-Luc Mélenchon, dans son texte, félicite, remercie même l'un des leaders du mouvement, Éric Drouet.
Oui, dans un long billet aux accents lyriques, Jean-Luc Mélenchon dit merci à Éric Drouet. Éric Drouet, ce trentenaire originaire de Seine-et-Marne qui se dit apolitique, dont les vidéos sont visionnées des dizaines de milliers de fois sur Facebook. Il est l'un des organisateurs de la première manifestation des Gilets jaunes du 17 novembre. C'est lui aussi qui avait appelé à entrer dans l'Élysée début décembre. Ça avait suscité beaucoup de réactions et donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Je l'écoute, je le lis, assure le patron de la France Insoumise, qui ose même former un vœu, puisse cette année être la vôtre et celle du peuple redevenu souverain, s'enthousiasme-t-il, tout en faisant un parallèle historique entre Éric Drouet et Jean-Baptiste Drouet, ce révolutionnaire qui reconnut la berline de Louis XVI en fuite à Varennes en juin 1791. Un soutien qui va donc jusqu'au clin d'œil historique. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, cet appel du pied à Éric Drouet est aussi une manière d'essayer de rattraper François Ruffin, le député électron libre de la France Insoumise, qui s'est dernièrement fendu d'un hommage à Étienne Chouard, ambassadeur controversé du référendum d'initiative citoyenne, régulièrement accusé de complotisme. complotisme. Étienne Chouard figure en tout cas très apprécié chez les Gilets jaunes.
Les précisions d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. La nuit dernière, la France a donc basculé en 2019. Nous sommes le 1er janvier et comme tous les 1er janvier, il va falloir s'habituer à une série de changements. Le plus important pour tous les Français, c'est sans doute l'arrivée du prélèvement à la source. Mais il n'y a pas que cela. Augmentation du SMIC, gel des tarifs du gaz et d'électricité, doublement de la prime à la conversion si vous changez de voiture et une augmentation symbolique aujourd'hui, celle du prix du timbre. Le timbre rouge passe la barre des 1 euro puisqu'il coûtera désormais 1 euro et 5 centimes. Comment est-ce qu'on peut justifier une telle hausse, Emmanuel Dutheil ?
Bien, c'est tout simple, hein. C'est pour compenser l'effondrement du marché du courrier. Même en cette période des vœux, on écrit malgré tout, même si vous le regrettez, de moins en moins. Résultat, les volumes du courrier se sont effondrés. Qui dit moins de courrier dit tout simplement moins de chiffre d'affaires pour la Poste. Du coup, il a été décidé par la tutelle depuis plusieurs années d'augmenter fortement le prix du timbre pour aider l'entreprise à deux choses. À se préparer à l'après-courrier d'une certaine manière et à lui permettre de continuer à assurer sa mission de service public, sa mission de service universel, puisque quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire en France, on a le courrier 6 jours sur 7. Donc la Poste a l'obligation pendant ce temps-là de se moderniser. Ça veut dire quoi de se moderniser ? C'est-à-dire de trouver ce qu'on appelle des relais de croissance pour compenser la baisse du courrier. Alors il y en a, hein. Par exemple les colis, ça c'est un truc extraordinaire en ce moment du côté de la Poste, ça compense en partie. Il y a également la Banque Postale, on l'a oublié, mais ce n'était pas une banque il y a encore quelques années. Ça a été créé il y a seulement quelques années. C'est une banque qui s'est vraiment installée dans le paysage. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver de nouvelles missions aux postiers, il faut réinventer. Et pour ça, la Poste se base sur ce qu'elle estime avoir comme actif le plus important, c'est la confiance. Le postier, il vient chez nous. Et c'est pour ça qu'il développe énormément d'initiatives. Par exemple, ils aident à remplir les déclarations de revenus. Et c'est pour ça que le prix du timbre augmente. C'est pour ça qu'il augmente aussi fortement. C'est pour permettre à la Poste de trouver un modèle pour demain.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Une bonne nouvelle pour le marché de l'automobile. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté l'an dernier, plus 3%. Une année marquée également par le déclin du diesel, des véhicules qui représentent désormais moins de 40% des immatriculations, contre 48% en 2017.
Marguerite Lefèvre sur Europe 1.
La cérémonie était placée sous très haute sécurité. Cérémonie d'investiture à Brasilia. Jair Bolsonaro est devenu en fin de journée le nouveau président du Brésil. L'ancien militaire, reconverti dans la politique, a pris les commandes du pays.
Brésiliens, brésiliennes, d'abord, je veux remercier Dieu d'être en vie. Aujourd'hui, je suis d'attaque, ému et profondément reconnaissant en Dieu pour ma vie et envers les Brésiliens qui m'ont confié la mission de diriger ce pays. C'est un grand moment d'espoir, de changement pour diriger le Brésil avec vous et de convoquer chacun des membres de ce congrès pour restaurer notre patrie. La libérer définitivement du joug de la corruption, de la criminalité et de l'irresponsabilité économique et de la soumission idéologique.
Le nouveau président d'extrême droite a appelé à un pacte national pour redresser le Brésil, aussitôt félicité par son homologue américain Donald Trump. Jair Bolsonaro, issu donc de l'extrême droite, entend mener tout un train de réformes. Il pourrait bousculer les codes de la démocratie, prévient Maud Chirio. Elle est historienne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil.
Il a été démocratiquement élu, il concentre des attentes qui sont en grande partie beaucoup plus larges que ce qu'il a annoncé et ce qu'il prétend faire. Il y a véritablement une espérance autour de son programme, mais c'est par ailleurs un pouvoir qui se préfigure comme peu respectueux des institutions démocratiques, extrêmement militarisé et extrêmement mobilisé idéologiquement dans la lutte contre la gauche ou le progrès au sens large. Et c'est pour ça que c'est un régime à la fois qui risque d'être autoritaire et qui va être extrêmement idéologisé à l'extrême droite, donc qui risque de sortir assez loin des cadres démocratiques.
L'historienne Maud Chirio qui était l'invitée de Mathieu Béliard dans le Grand Journal du Soir tout à l'heure. En Allemagne, 4 personnes ont été blessées dans le nord-ouest du pays, percutées par un automobiliste. Le conducteur d'une cinquantaine d'années a foncé dans un groupe qui patientait à côté d'un arrêt de bus. Il a été arrêté par les policiers. Parmi les 4 blessés figurent des ressortissants afghans et syriens. Et sachez qu'en Angleterre, une enquête terroriste a été ouverte. Hier soir, un homme muni d'un couteau a attaqué trois personnes à Manchester. Il a été arrêté et se trouve toujours en garde à vue. Retour en France avec cette nouvelle agression en prison. À Valence, deux surveillants pénitentiaires ont été pris pour cible par un détenu. Selon le syndicat UFAPUNSA, l'agression était préméditée. Écoutez Sylvain Royer, le responsable local du syndicat.
Le détenu était agité depuis plusieurs jours et puis il a commencé à tenter de jeter une casserole d'huile bouillante qu'il avait soigneusement préparée. Il avait mis plusieurs couches de vêtements, donc c'était prémédité. Il a voulu le jeter sur le surveillant. Le surveillant l'a arrêté avec le bras, mais il a reçu de l'huile bouillante sur le bas du ventre et sur les cuisses. Ensuite, le détenu s'est emparé d'une lame de rasoir et a entaillé la main du surveillant. Un autre surveillant est arrivé et puis il y a eu des coups qui ont été portés. Voilà, les deux personnels ont été transportés à l'hôpital et sont en observation pour le moment. Le problème, c'est que nos prisons sont des fourre-tout et ça devient des cocottes-minutes. Et puis à chaque fois, on n'est pas préparé à ça, quoi. Donc tout le monde est choqué et un peu la boule au ventre, quoi. Donc il faut que la ministre de la Justice s'empare de ce problème et enfin créer des établissements spécialisés pour chaque type de détenu, chaque profil, afin de déjà garantir la sécurité des personnels et puis d'avoir un suivi dans la peine des détenus qui soit le meilleur possible.
Sylvain Royer de l'UFAPUNSA, il répondait à Pierre de Cossette. Dans la Loire, trois hommes et une femme ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir volé et incendié deux véhicules de pompiers le week-end dernier. Âgés de 21 à 27 ans, ils reconnaissent les faits et seront jugés demain en comparution immédiate à Saint-Étienne. La nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée sans débordement notable. Hier soir, communiqué rassurant du ministère de l'Intérieur tout à l'heure. Même sur les Champs-Élysées à Paris, les manifestations redoutées n'ont pas eu lieu. À Rennes, 8 personnes, toutefois, ont passé un réveillon un peu compliqué. Les pieds dans le vide, à 50 mètres de haut, coincés dans un manège. Ils n'ont été secourus que tôt ce matin. Rémi Bostaron, leur cauchemar a commencé bien avant minuit.
Et oui, la nuit ne faisait que commencer. Il était 20h30 hier soir quand ces 8 Rennais ont pris place dans le manège. Vous savez, l'un de ces manèges impressionnants avec un bras de plus de 50 mètres de long et au bout, une petite nacelle. Les passagers sont harnachés, la machine commence à tourner, elle prend de la vitesse et soudain, les passagers comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal, comme le raconte Léo, 17 ans.
On a vu beaucoup d'étincelles sortir du moteur, ce qui nous a procuré pas mal de peur. Et on avait aussi senti des secousses et des bruits de craquement, donc on a cru en fait que le bras était cassé et allait tomber.
Alors non, le bras ne tombe pas, mais il s'immobilise et une longue nuit d'attente commence pour les passagers. Alors que les secours cherchent une solution pour venir les chercher, eux restent les pieds dans le vide, comme Nicolas.
Donc j'avais mon fils qui avait son portable avec lui, donc on communiquait avec le sol, ça nous donnait des informations. On avait froid, mais tout le monde était calme. On s'est souhaité la bonne année, voilà, et puis on démarre bien l'année.
Alors ça, c'est la version souriante des témoignages. D'autres confient tout de même, ça faisait peur, c'était traumatisant ou je pensais ne pas pouvoir descendre un jour. Il faut dire que l'intervention des pompiers est compliquée. Ils essayent d'abord d'escalader la machine depuis le sol, sans succès. Puis ils tentent d'utiliser la grande échelle. Nouvel échec. Il faut finalement un hélicoptère de la sécurité civile et l'élitreuillage d'un secouriste sur la nacelle pour commencer à faire descendre les passagers un par un avec un harnais. Le dernier met finalement pied à terre à 6h ce matin, conclusion d'un incident causé par une pièce neuve qui a lâché, selon le propriétaire du manège. Mais peu importe l'explication, pour Nicolas, qu'on entendait tout à l'heure, pour lui, l'année prochaine, c'est sûr, ce sera réveillon à la maison avec petit four et champagne.
Le récit de Rémi Bostaron, eux, les voulaient. Les sensations fortes des milliers de baigneurs se sont jetés à l'eau, comme le veut la tradition du 1er janvier, dans la Méditerranée, dans l'Atlantique ou même dans la Manche. À Deauville, 400 courageux se sont lancés sous les yeux de Romain Hoquet.
Le top départ est donné, vous pouvez y aller.
On court et on réfléchit pas, on pense pas à la température.
Ça va, on a l'impression de perdre la mémoire pendant un instant, mais après, un grand renouveau de l'esprit et du corps.
Elle est fraîche, elle est vivifiante, parce qu'on sent le froid monter au niveau des chevilles, des genoux, des cuisses, et ensuite on tombe, mais il faut pas traîner quand même.
Allez, la top.
Ça enlève pas le mal de tête, mais en tout cas, ça fait du bien au corps. On devrait faire ça tous les jours, je pense.
Je me sens fière, je me sens en forme, là. Je me dis que si j'ai réussi à faire ça, je réussirai à faire plein d'autres choses. C'est mon année.
Bonne année
ensemble.
Des baigneurs courageux, voire un peu fous, il faut le dire, au micro de Romain Hoquet. On passe au sport et cette page qui s'ouvre aujourd'hui, une période qui met chaque année la planète foot en ébullition, le mercato d'hiver. C'est le moment pour tous les clubs européens de revoir un peu, d'ajuster leurs effectifs après le début de la saison. On va voir tout ça avec vous, Jean-François Pérez. On va se concentrer sur la France. Tous les regards en ce moment sont tournés vers Monaco.
Oui, alerte rouge sur le Rocher. Il y a un an et demi à peine, Monaco était en demi-finale de la Ligue des Champions et sacré champion de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui avant-dernier de Ligue 1 et en position de relégable. Alors la chute est terrible, hein. Le prince Albert ne cache plus sa colère, d'autant que le propriétaire russe de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, est dans le collimateur de la justice. La crise est profonde et même l'arrivée de Thierry Henry au poste d'entraîneur n'a pour l'instant rien changé. À force de vendre ses meilleurs joueurs pour dégager de colossaux bénéfices, l'équipe s'est affaiblie. Les blessés sont légion. Bref, il va falloir recruter dans tous les secteurs du jeu. Et parmi les nombreux dossiers à l'étude, ceux du champion du monde espagnol, Cesc Fabregas, en froid avec Chelsea. Et d'une manière générale, d'ailleurs, c'est vers le championnat anglais que la direction monégasque va se tourner pour sortir de l'ornière.
L'autre club qui a besoin de revoir son effectif et notamment son attaque, c'est l'Olympique de Marseille.
Ouais, là, c'est alerte orange hein, à Marseille. L'OM n'est certes qu'à 5 points du podium, son objectif affiché cette saison pour retrouver la Ligue des Champions. Mais le parcours européen cataclysmique, 1 point à peine en 6 matchs de Ligue Europa et la piteuse série actuelle, seulement 2 victoires sur les 12 derniers matchs, ont mis à mal la patience des supporters. L'entraîneur Rudy Garcia en poste depuis plus de 2 ans, c'est une éternité à Marseille, eh bien il est fragilisé. Alors aura-t-il les moyens de renverser la tendance? L'OM est sous la menace du fair play financier, il lui faut vendre avant d'acheter. Côté départ possible, le duo d'attaquants éreinté par la critique, Germain Mitroglou, le premier a des touches à Nice et à Monaco, le second pourrait rebondir à l'étranger. Sans oublier les gros salaires qui ne jouent pas, Sertic, Abdennour, Ubokan, la liste est très longue. En échange, l'OM espère récupérer un attaquant qui marque si possible. Pourquoi pas tenter le pari fou Mario Balotelli et puis un arrière-gauche qui soit plus convaincant que Jordan Amavi.
Enfin Jean-François, même si ça marche au PSG, le club devrait aussi chercher à se renforcer.
Oui, tous les voyants sont au vert là, mais les dirigeants parisiens, vous le savez, sont obsédés par la victoire, la conquête de la Ligue des Champions et ils sont persuadés qu'ils ont besoin de davantage d'impact au milieu de terrain, d'autant que le désormais célèbre cas Adrien Rabiot est bouclé, il va partir. Alors qui va débarquer? L'enveloppe pour recruter serait d'environ 30 millions d'euros. Cela pourrait là encore se jouer en Angleterre. On parle d'Aaron Ramsey d'Arsenal, d'Idrissa Gueye encore qui évolue à Everton. Mais là encore, attention au fair play financier. Le Paris Saint-Germain est sous la menace de lourdes sanctions et sa marge s'annonce très limitée.
Merci pour toutes ces explications. C'était Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 en tennis. Début d'année en fanfare pour Pierre-Hugues Herbert. Le Français vient de battre le 8e joueur mondial Dominic Thiem au tournoi de Doha. Et puis en cyclisme, les derniers vainqueurs du Tour de France, les Britanniques Chris Froome et Geraint Thomas rempliront cette année. Les deux coureurs ont décidé de ne pas courir le Tour d'Italie pour se concentrer sur le mois de juillet et la Grande Boucle. Donc cette année, le Tour de France s'élancera de Bruxelles le 7 juillet prochain. Et puis toujours en sport, mais côté moins glorieux, la Russie fait de nouveau parler d'elle en matière de dopage. Moscou n'a toujours pas transmis ses informations à l'Agence mondiale antidopage. Le pays était pourtant censé coopérer. C'était la condition nécessaire à la levée des sanctions. On passe à la météo. Valérie Darmon, moins de grisailles ce mercredi et des températures en baisse.
Et je commence avec ces températures en baisse parce qu'on avait perdu cette habitude avec des maximales entre 3 à Saint-Etienne et 15 degrés à Nice. 6 annoncés à Aurillac, à Lyon et Strasbourg pour demain après-midi. 7 à Toulouse, Grenoble, au Havre et à Poitiers. 8 degrés en région parisienne, à Biarritz et à Lille. Et enfin 13 degrés à Manosque et pour le matin entre moins 4 à Embrun et 7 degrés à Perpignan du côté du ciel. Alors les plaines du sud-ouest vont rester sous une bonne chape nuageuse, mais le soleil va briller ailleurs dans la partie sud, notamment dans le sud-est. Et sinon, le ciel va alterner. Enfin, entre éclaircies et cumulus, les éclaircies qui seront plus généreuses entre le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, le centre et la région parisienne tout de même. Donc pas de pluie demain, pas de gelée. En revanche, effectivement, baisse des températures et retour de la luminosité.
Merci, c'était la météo de Valérie Darmon. Europe 1. Il est 22h18 sur Europe 1 et on vous propose ce soir de vous replonger, de revivre les meilleurs moments de l'année 2018 en matière de sport. Évidemment, quand on regarde en arrière, on revoit immédiatement ce mois de juillet, cette descente des Champs-Élysées par les joueurs de l'équipe de France de foot, champion du monde, des Bleus qui désormais ont un objectif, se qualifier pour l'Euro en 2020.
On a vécu de grands moments grâce à cette Coupe du Monde et maintenant il va falloir se concentrer sur le nouvel objectif qui est la qualification pour l'Euro.
Les cartes sont redistribuées, tout le monde aura 0 point au début de la compétition, au début des poules qualificatives.
Sur le terrain, ça va être une belle bataille aussi. Notre objectif, je vous le répète, c'est prendre plus de points que nos adversaires.
Là, on rentre sur un nouveau cycle et voilà, c'est la qualification pour l'Euro. On va s'y préparer.
Avec 2019, ce sera le retour dans le grand bain de la compétition pour les Bleus après le rêve de 2018 et une Ligue des Nations à laquelle les Français ne portaient que peu d'intérêt. Les champions du monde s'apprêtent à repartir en campagne avec un objectif, se qualifier pour l'Euro 2020. Dans son groupe de qualification, la France va retrouver la Turquie, l'Islande, la Moldavie, Andorre et l'Albanie. Un groupe à la portée des Bleus, assume Didier Deschamps.
Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, peu importe quoi. Aujourd'hui, on connaît nos cinq adversaires, parmi lesquels il y en a deux qu'on a l'habitude de rencontrer avec l'Islande et l'Albanie, qu'on croise souvent dans les phases de qualification. La Turquie, où c'est jamais évident d'aller jouer, où l'équipe de France n'a jamais rencontré la Moldavie. Et Andorre, donc 30 points à prendre pour se retrouver à l'Euro 2020.
Et puis en marge des terrains, dans les tribunes, les Bleus vont aussi faire l'expérience d'ambiance hors normes lors de leur déplacement, comme le soulignait notre envoyé spécial lors du tirage au sort, Cyril de la Morinerie.
Oui, un groupe abordable puisque la France n'a jamais perdu face à ses 5 équipes en compétition. Mais attention tout de même à l'Islande, contre laquelle elle a difficilement décroché le nul en octobre. Et bien sûr à la Turquie et ses stades bouillants entre le clapping islandais et les chants turcs. Il y aura donc de l'ambiance.
Mais au-delà de ces matchs, un autre enjeu s'annonce, faire évoluer l'équipe de France. Didier Deschamps a fini 2018 en faisant confiance à la grande majorité des champions du monde. Mais avec la nouvelle année qui s'ouvre, il va également rebattre les cartes, au moins en partie.
Ça laissera la place à d'autres joueurs aussi, comme ça a été toujours le cas, à partir du moment où j'estime que ça peut être une solution et un plus pour l'équipe de France, j'irai dans ce sens-là.
Le retour de la concurrence et la fin d'un rêve collectif, voilà pour le programme. Avec 2019, l'équipe de France va devoir tourner la page fastueuse du mondial. C'est un retour sur terre, les dieux du foot, de nouveau parmi les mortels.
Rétrosport signé aujourd'hui Simon Rubin. Europe 1. Restez avec nous dans un instant. La France bouge. On parlera de l'entreprise de jouets Maco Moulage.
Europe 1, Marguerite Lefèvre.
22h22 sur Europe 1, l'heure de retrouver, comme tous les soirs cette semaine, un extrait de La France bouge, l'émission de Raphaël Duchemin, tous les jours entre 12h30 et 14h. Ce soir, il est question de jouets pour enfants avec l'entreprise Maco Moulage. Raphaël Duchemin, on parle d'une entreprise totalement relancée.
Et oui, c'est l'histoire d'une renaissance que nous allons vous conter aujourd'hui, celle de Maco Moulage. Grâce à vous, Agnès Beuchet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Maco Moulage, ça a été créé dans les années 70, hein, fin des années 60, c'est bien
ça ? Fin 60, exactement.
Ouais. Ouais, fin 60. Alors, Maco Moulage, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il y en a, c'est tout simplement des petites figurines que nous, enfants, nous fabriquions. Je dis nous parce que j'en ai fait quelques-unes, évidemment. À l'époque, ça a été racheté par Nathan, par d'autres ensuite. Et puis, c'est un peu tombé en déshérence.
Complètement. En fait, le dernier propriétaire de la marque a continué à commercialiser, à communiquer dessus jusque dans les années 90, fin 90. Et puis, cette marque a été laissée pour compte, on va dire, pendant 15 ans. Et quand je m'en suis aperçue il y a 5 ans, je me suis dit, allez, relançons Maco Moulage.
Alors, Maco, il y a un petit animal dessus, comme ça. C'est un petit lémurien.
Exactement. Voilà. La mascotte Maco, en fait, elle existe depuis le début. Et puis, quand j'ai repris la marque et que j'ai relancé le graphisme, la production, j'ai modernisé un petit peu ce lémurien, mais ça reste un lémurien. Donc, j'ai gardé les codes de Maco Moulage de notre enfance.
Oui, vous arrivez en 2013, vous étiez en fait dans l'événementiel et vous travaillez sur les marques et vous dites, tiens, bon, bah, Maco, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est tombé un peu dans l'oubli. Il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Vous relancez la marque. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Vous allez voir chaque personne qui travaille derrière cette entreprise, c'est-à-dire quelqu'un pour le latex, quelqu'un pour le plâtre. Pour tout, vous êtes allé démarcher les entreprises.
Oui, je me suis dit, cette marque ne peut pas ne pas renaître. Donc, c'était mon petit combat en 2014. Et effectivement, je suis repartie sur les traces des producteurs. Donc, j'ai retrouvé le fabricant de latex qui fabriquait les Maco Moulage de l'époque. Je suis allée à Carpentras pour chercher du plâtre. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je voulais relancer cette marque, mais la relancer façon patrimoine, c'est-à-dire en respectant l'histoire de la marque, en respectant les consommateurs, enfin, nous qui l'avons connue à l'époque. Donc, je voulais faire du Made in France. Donc, je suis allée chercher petit à petit pendant un an tous les sous-traitants qui pouvaient me recomposer le produit et relancer en fait la production.
Relancer le Maco Moulage. Alors, le Maco Moulage, c'est ce petit sachet de plâtre. On met de l'eau, On prend le petit moule en latex. Alors, je sais que ça fait beaucoup rire autour de moi, parce qu'évidemment, celui-ci, c'est une tour Eiffel. Donc, je vous laisse imaginer quelle forme il a. Ce petit moule, et on va aller mettre le plâtre à l'intérieur. Une fois que c'est sec, on va le peindre.
On démoule et on peint.
On peut même mettre des paillettes. Et vous avez eu la bonne idée, c'est-à-dire que vous avez ressuscité les figurines historiques. Mais vous avez aussi ajouté de nouvelles, notamment les monuments historiques.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, je ne pouvais pas reprendre des figurines historiques, puisque c'était beaucoup de Mickey, de Schtroumpf, etc. Et donc, j'ai relancé à la manière d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec toutes les thématiques qui plaisent aujourd'hui aux enfants, donc les dinosaures, les fées, les princesses. Et puis, chaque année, en fait, je fais bien sûr des nouveautés, parce qu'il faut beaucoup innover dans ce monde du jouet. Et cette année, la dernière innovation, c'est la gamme Monuments Célèbres, qu'on commence avec la Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe pour l'année prochaine, Montmartre, voilà, on est en train d'étudier la gamme de l'année prochaine. Il y aura aussi des monuments régionaux, parce que c'est important d'aller à la rencontre des consommateurs de chaque région, et puis une gamme internationale pour l'export dans les futurs mois.
Laurent Chauvin, le coach.
Oui, moi j'étais très schtroumpf en fait à l'époque, mais c'est comme ça, j'ai appris que ça vous disparaît.
Vous les avez gardés ?
Oui, j'en ai encore deux.
Bon.
Finalement, les matériaux n'ont pas changé. La technologie a peu évolué, je suppose. Vous changez de temps en temps, je suppose, les moules, forcément, pour s'adapter. Donc, finalement, vous êtes sur une entreprise plutôt de marketing, plutôt d'idées.
Alors, moi, j'ai vraiment relancé cette marque dans l'idée de relancer, en fait, aujourd'hui, mes consommateurs, ce sont les parents d'hier. Voilà. Donc, on va s'appuyer sur des valeurs refuges, sur des idées de transmission.
La nostalgie un peu.
Sur les enfants d'hier, les parents d'aujourd'hui. Donc, on était à la base, il y a 5 ans, dans une histoire de nostalgie. Mm-hmm. Je me suis aperçue que ce produit n'était pas nostalgique, dans le sens où il est très vivant aujourd'hui. Et les enfants d'aujourd'hui adorent créer, imaginer, peindre, personnaliser. Donc, on est sur un jeu très actuel. Mais avec une recette d'hier, c'est-à-dire qu'on part de la matière brute, du plâtre. Et ensuite, on vient le mouler selon les thématiques et le personnaliser jusqu'au bout. Donc, effectivement, c'est une recette d'hier, mais qui a complètement son sens aujourd'hui. Et les enfants d'aujourd'hui adorent, et ça c'est la bonne nouvelle du jour.
Agnès Beucher, combien de personnes travaillent avec vous? Les macottes, hein, c'est ça, on les appelle?
Oui,
comme
alors
ça
les macottes,
elles s'appellent elles-mêmes comme ça?
Oui, elles s'appellent comme ça parce que c'est les personnes à l'usine. En fait, en l'occurrence, ce sont des femmes qui sont sur la chaîne de production et qui se sont appelées les macottes parce qu'elles adorent elles aussi ce jeu et que ça leur a rappelé leur enfance, etc. Donc elles se surnomment les macottes. Et au-delà des macottes à l'usine, on a 10 personnes cette année. Donc une force de vente et puis des gens au siège.
Juste les sous-traitants qui travaillent pour le plâtre, évidemment, pour le latex et pour la peinture également. Vous en avez vendu 40 000 boîtes en 2015, 58 000 boîtes, c'est ça, l'année dernière?
Exactement, et ça progresse puisque les consommateurs n'arrêtent pas de nous envoyer des mails, etc. pour dire mais où est-ce qu'on peut trouver du Mako? J'ai appris que ça avait été relancé.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver du Mako?
Et alors, dans tous les très bons magasins de jouets.
Oui.
Dans tous les bons magasins de jouets.
Parce que vous faites partie des gens qui soutiennent le jouet français.
Exactement. Moi, c'était vraiment la manière dont je voulais relancer cette marque, c'est travailler avec des sous-traitants français à la manière française. Aussi pour pouvoir avoir un circuit de commercialisation court, c'est-à-dire que si jamais je suis en rupture, je peux refabriquer et les magasins sont relivrés sous très peu de temps. Et puis ensuite, on a également un site internet qui va sortir le 1er novembre pour pouvoir permettre à tous les consommateurs qui n'arrivent pas à trouver dans leur magasin toute la gamme sur notre site.
Alors justement, vous dites que ça cartonne. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ouvrir un magasin en direct?
Alors
sous
après,
la marque Mako Moulage.
Ouais, après, c'est des problématiques business.
Parce que vous dites que vous en fabriquez de plus en plus, que vous diversifiez, vous allez faire les monuments.
Alors pour l'instant, on privilégie vraiment les magasins de jouets. Que chaque magasin puisse distribuer du Mako sans avoir de concurrence, on va dire, avec un magasin en propre. Ce sont des problématiques purement business. Quand Mako... Oui, j'y pense quand la marque sera beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Mako Moulage avec deux plâtres. L'objectif, c'est de faire de Mako une marque durable, donc d'aller sur d'autres segments que le moulage plâtre.
Et
donc
Mako sortir Bougie, des gammes... on en a parlé tout à l'heure. Hein.
Mako Bougie, on vous en a parlé. Voilà, ça fait partie des éventuelles nouvelles gammes. Mais avant d'ouvrir un magasin en propre, il faut pouvoir avoir un certain nombre de références. Et donc ça, ce sont
donc
vraiment des problématiques d'entrepreneurs. Voilà.
C'est Mako Moulage et c'est l'entreprise qui va bien. Merci grâce à vous, Agnès Beucher. Merci d'être venue sur Europe 1.
La France bouge avec Raphaël Duchemin. C'est tous les jours entre 12h30 et 14h. On termine avec les unes de vos quotidiens. Demain, des solutions pour polluer moins. C'est la une de Libération. Le quotidien s'engage et vous propose des pistes pour réconcilier l'écologie et le social. Des axes de travail comme la rénovation des bâtiments, les nouvelles mobilités ou encore une alimentation plus raisonnée. Le Figaro, quant à lui, se pose une question. Macron Macron pourra-t-il mener à bien ses réformes en 2019 ? Retraite, assurance chômage, fonction publique, PMA, les chantiers sont nombreux, mais combien arriveront à leur terme ? Comment maintenir le rythme des réformes alors que la crise des gilets jaunes divise le pays ? Le président, nous dit Figaro, va devoir se montrer à l'écoute. Macron peut-il encore réformer ? La même question se retrouve d'ailleurs également à la une de l'opinion. Voilà pour la presse de demain, il est 22h30. Europe Nuit, c'est terminé, passez une excellente soirée tout de suite. C'est la libre antenne de Sabrina Philippe. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Marguerite.
Un numéro pour vous joindre, le 39 21 jusqu'à 1h du matin.
Exactement, on vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.